RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Ça dure un quart d'heure ?
Bonsoir et bienvenue dans Mardi politique sur France 24 et RFI. Et c'est la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, qui est avec nous ce soir, qui est notre invitée. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous allons commencer, Sophie Primas, par les propos sur l'immigration tenus hier soir par le Premier ministre. Alors, je vais le citer. « Les apports étrangers sont positifs pour un peuple, à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Et la France, a-t-il ajouté, approche de ce seuil. » Ces propos ont suscité de très nombreuses réactions, souvent hostiles, parfois favorables. En tant que porte-parole du gouvernement, êtes-vous en phase avec ce qu'a dit François Bayrou ?
Écoutez, je crois que la polémique aujourd'hui, elle est sur la sémantique. Donc si vous me permettez, je ne vais pas m'arrêter à la sémantique. En revanche, je vais m'arrêter au fond des propos. Et aujourd'hui, nous savons parfaitement que les Français sont très soucieux que nous puissions gérer notre immigration de façon positive. C'est-à-dire à la fois être décisionnaire de qui rentre dans notre pays, et c'est important pour de nombreux sujets, des sujets économiques, des sujets d'asile, évidemment, souvent, et aussi qui sort de notre pays. Et la gestion de ces flux migratoires est quelque chose sur lequel nous devons reprendre la main, sur lequel nous devons faire appliquer la loi. Et ça, c'est un sujet de préoccupation qui est un vrai sujet de préoccupation pour les Français.
Ouais, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, elle, c'est peut-être arrêté sur la sémantique, pour reprendre vos propos. En tout cas, elle a dit qu'elle était gênée par ses propos et qu'elle ne les aurait pas tenus. Pour votre part, puisque les mots ont un sens, et le mot submersion, effectivement, on peut considérer qu'il soit connoté, éventuellement, pour employer une formule un peu facile.
Écoutez, vous comprendrez que je ne m'arrête pas à ces problèmes de sémantique.
Non, mais que vous ne vous y arrêtez pas. Que vous ne vous y arrêtiez pas, c'est une chose, mais que vous réagissiez, c'en est une autre.
Je veux vraiment dire que c'est une préoccupation de tous les Français. Il faut y répondre par des actes et je ne veux pas m'arrêter à la surface de ces mots.
Alors, cet après-midi à l'Assemblée nationale, les propos du Premier ministre ont été à l'origine d'un échange extrêmement tendu entre lui-même donc, et Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. François Bayrou a maintenu ses propos en expliquant que ce n'étaient pas les mots qui étaient choquants, mais les réalités qui pouvaient être choquantes. Peut-être le rejoindrez-vous sur ce point-là. Mais en tout cas, le résultat, c'est que le Parti socialiste annonce qu'il suspend ses négociations sur le budget avec le Premier ministre, voilà, qui n'arrange vraiment pas les affaires du gouvernement.
Ouais, écoutez, je pense que nous sommes en face d'une situation où chacun a compris que le vote du budget doit avoir lieu. Chaque jour, nous perdons 100 000 euros de valeur ajoutée sur la France. Chaque jour, nous creusons et nous
100 000 euros, avez-vous dit ?
100 millions d'euros,
oui.
Excusez-moi.
On va parler de ce chiffre. Donc,
oui, 100 millions d'euros, oui. Excusez-moi. Je crois que l'urgence, elle est au vote du budget. Et c'est ça, aujourd'hui, notre urgence. Et notre urgence, ensuite, c'est d'attaquer ce que le Premier ministre appelle les pics de l'Himalaya. Dans ces pics de l'Himalaya, il y a la dette, il y a le fonctionnement de l'État, il y a le sujet de l'immigration, qui sont des sujets qui sont au cœur des préoccupations des Français. C'est ça, en fait, l'urgence pour nous aujourd'hui.
Alors, je vais m'arrêter tout de même encore un instant sur ce mot « submersion », parce que vous savez que ses adversaires, et notamment à gauche, lui reprochent de l'avoir employé, alors que c'est un des mots qui est couramment employé par le Rassemblement national, notamment par Marine Le Pen. Est-ce que le Premier ministre, tout en essayant de négocier avec le Parti socialiste, a d'une certaine manière essayé aussi de donner des gages au Rassemblement national?
Le Premier ministre a un objectif, répondre aux attentes des Français. Voilà, c'est ça l'objectif. Et la première réponse, je le redis, je ne veux pas m'arrêter sur ces questions sémantiques. La première réponse, c'est de voter le budget et de remettre la France en ordre de marche.
Alors, on va aborder la question autrement, puisque vous avez entamé un tour de France, et vous l'avez entamé la semaine dernière. Ce qui n'est pas d'ailleurs courant pour un ou une porte-parole du gouvernement. Ça n'est pas dans la tradition. Vous avez décidé de le faire. Vous étiez la semaine dernière dans la Creuse. Et vous expliquez au fond que vous voulez être un porte-parole dans les deux sens.
Oui.
Porter la parole du gouvernement auprès des Français, porter la parole des Français auprès du gouvernement. Qu'est-ce que vous disent les Français? Vous venez de le commencer, ce Tour de France, vous étiez dans la Creuse. Est-ce que le sujet de l'immigration est quelque chose dont les Français que vous avez rencontrés vous ont parlé?
Alors, les Français dans la Creuse ont été absolument extraordinaires. Moi, je suis revenue de cette journée à la Creuse très reboostée, pleine d'énergie, parce que la Creuse connaît des difficultés économiques, des difficultés de peuplement, de mobilité. Mais j'ai trouvé des gens sur le territoire avec des solutions et dont l'unique demande, ou la plus grande partie des demandes, était orientée vers « donnez-nous plus de liberté et on va s'en sortir, on prend les problématiques en main ». Donnez-nous juste territorialement un tout petit peu plus de liberté.
Ça, c'était un des crédos de Michel Barnier quand il est arrivé au gouvernement, en disant les bonnes solutions peuvent venir partout, d'en bas, disait-il, avec la part de maladresse que peut avoir cette formule.
Il avait absolument raison, et je pense que c'est quelque chose sur lequel le Premier ministre actuel est tout à fait d'accord, lui qui vient d'un territoire aussi, qui est un territoire par endroit assez rural. Et en fait, je suis revenue dans la Creuse, pas avec des problématiques. Il y a quelques fermetures d'entreprises qui sont douloureuses pour les salariés, évidemment, parce qu'on est dans une phase de transformation de notre industrie, que les sous-traitants automobiles connaissent des difficultés sans nom. Mais j'ai trouvé des médecins, j'ai trouvé des jeunes, j'ai trouvé des associations, j'ai trouvé des missions locales qui sont pleines de solutions et qui nous demandent d'abord de la liberté. Le problème de l'intégration n'est pas un problème que connaît la Creuse.
D'intégration ou d'immigration, vous voulez dire ?
D'immigration.
Non, vous avez dit d'intégration, c'est pour ça que je vous demandais.
D'immigration, pardon.
Donc ça n'est pas un sujet qui a été particulièrement évoqué.
Non, ce n'est pas un sujet qui a été particulièrement...
Alors, je le disais, donc les socialistes ont annoncé, pour l'instant en tout cas, la suspension des discussions sur le budget, en raison des propos du Premier ministre. Mais parlons un instant du budget.
Oui.
Le texte sera donc à partir de jeudi prochain entre les mains d'une commission mixte paritaire, qui compte donc 7 sénateurs et 7 députés. Que reste-t-il aujourd'hui à négocier pour éviter la censure ?
Oh, il reste à négocier des demandes des uns et des autres, de l'ensemble de l'arc républicain, qui aujourd'hui sont dans les ajustements. Et donc, il y a une discussion. Et d'abord, le texte qui sera proposé à la CMP, au vote de la CMP, n'est pas le texte qui est sorti du Sénat. Donc, il faut réajuster le texte du Sénat en fonction des demandes de l'Assemblée, en fonction des demandes des différents groupes politiques. Mais on est aujourd'hui plus dans l'ajustement que dans la refonte totale, évidemment, de la copie.
Vous avez dit des demandes de l'arc républicain. Qui n'est pas dans l'arc républicain ?
Oh, il y a des demandes...
Non, mais vous avez repris ce terme d'arc républicain. Qui n'y est pas dans l'arc républicain
à l'Assemblée ? Vous savez, la méthode de François Bayrou, c'est d'écouter, de dialoguer... et ensuite de prendre ses responsabilités. Oui. Dans le dialogue, il y a des formations politiques qui sont rentrées dans le dialogue, il y en a qui ne sont pas rentrées dans le dialogue, qu'on a quand même écouté, mais qui ne sont pas rentrées dans le dialogue. C'est ce que peut-être maladroitement j'appelle l'arc républicain, en tout cas c'est l'arc du dialogue.
L'arc de la bonne volonté, alors
l'arc de la bonne volonté, de la responsabilité. Non, mais de la responsabilité, parce que chacun comprend dans les formations politiques que le vote du budget est maintenant vraiment obligatoire et qu'il faut le faire très rapidement.
Oui. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, disait, je crois que c'était hier, que la dernière mouture du texte remplit la condition de réduire le déficit, mais pas celle d'être le budget du compromis. C'est en effet là que vous en êtes ?
Oui, c'est ça. C'était la copie qui a été rendue par les sénateurs, qui marque une volonté des sénateurs sur certains points politiques particuliers. C'est normal que le Sénat s'exprime sur des propositions. Et d'ailleurs, je note que le Sénat n'était pas à 5,4% de déficit, mais à 5,3%, donc un petit peu plus ambitieux. Mmh. Mais il y avait des points qui ne faisaient pas partie de l'accord entre le gouvernement et un certain nombre de formations politiques. Par exemple, je pense au poste sur l'éducation nationale. C'est ça qui va être ajusté en CMP. Et de source sûre, je sais que les commissaires qui font partie de cette commission mixte paritaire sont vraiment au travail de façon extrêmement forte pour arriver à un accord, on l'espère, mercredi soir.
Alors,
et puis jeudi soir, voilà.
Vous parliez tout à l'heure de ce que coûte l'absence de budget. Et donc Amélie de Montchalin, qui est la ministre des Comptes publics, affirme que la censure du gouvernement de Michel Barnier a déjà coûté 12 milliards d'euros à la France. Et que dans l'attente donc d'un budget, c'est 100 millions d'euros de plus par jour. Mais ces chiffres, est-ce qu'ils sont fiables et vérifiés? Parce qu'on se souvient tout de même qu'il y a eu des propos très alarmistes de certains ministres sur s'il y a censure, les retraites ne seront pas payées, les cartes vitales ne marcheront plus. Tout ça a été un peu excessif, ouais. Tout de même.
Vous savez, nous sommes dans une période de vœux encore. Ouais. Et quand vous allez dans les cérémonies de vœux dans les différentes communes, ce que vous disent les maires est très éclairant. Ce que vous disent la population est très éclairant. Les maires, ils vous disent « Ah ben, aujourd'hui, je n'ai pas de budget parce que je ne connais pas ma dotation de fonctionnement. Je n'ai pas d'investissement parti parce que je ne sais pas les subventions qu'il va y avoir. » C'est tout ça qui coûte beaucoup d'argent maintenant et qui va coûter beaucoup d'argent dans l'année 2025. Ensuite, vous savez très bien que si nous ne votons pas de budget, avant la fin du mois de février, il y a 1 million de Français qui vont rentrer dans l'impôt alors qu'ils n'y sont pas aujourd'hui. La revalorisation des seuils va faire que les impôts vont augmenter. Tout ça, ce n'est pas des fables. Lorsque j'étais dans le gouvernement de Michel Barnier, nous avions déjà averti. Et effectivement, il y avait beaucoup de gens qui nous disaient « Oh, vous nous dites ça pour nous faire peur ». Aujourd'hui, on y est. Et aujourd'hui, on voit combien ça coûte et on voit combien ça nous coûte aussi sur le chômage, par exemple.
Alors, ces chiffres, donc 12 milliards d'euros depuis la censure, 100 millions d'euros de plus par jour. C'est une estimation qui s'appuie presque exclusivement sur les dernières projections économiques de la Banque de France qui ont été arrêtées fin novembre. Mais la Banque de France n'impute pas tout le ralentissement économique à l'incertitude autour du budget. Voici ce que disent les analystes de la Banque de France. Aux incertitudes internes s'ajoutent les aléas géopolitiques toujours élevés et désormais aussi ceux qui pèsent sur le commerce international. Et ils poursuivent, le résultat de l'élection américaine augmente le risque de fragmentation du commerce international, constituant ainsi un aléa significatif pour nos projections. Donc dire que c'est l'absence de budget qui coûte 100 millions d'euros par jour est peut-être un petit peu excessif tout de même. Selon les analyses de la Banque de France, il y a d'autres facteurs qui expliquent ça.
Alors quand vous avez la tête sous l'eau, si on vous appuie sur la tête, en plus, vous n'avez aucune chance de vous en sortir et de respirer. Évidemment, tous les facteurs externes sont des facteurs d'incertitude et qui sont des facteurs qui pèsent sur l'ensemble des autres pays européens, d'ailleurs. Quand vous regardez la santé économique de l'Allemagne, par exemple, elle n'est pas favorable non plus à la santé économique de la France. Donc, évidemment, on a des incertitudes géopolitiques. Évidemment, on a l'arrivée de Donald Trump, des potentielles barrières douanières et taxes douanières qui créent un sentiment d'incertitude. Mais le fait que nous n'ayons pas de budget, factuellement, empêche d'engager. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on n'a pas de budget. Donc, l'ANA, l'agence de rénovation, ne peut pas délivrer de primes pour rénover votre maison. Pendant 2 mois, ça va être le cas. Qui est-ce qui, au bout du compte, va payer ça? Les artisans qui ne sont pas au travail, qui n'auront pas de commandes et qui ne pourront pas travailler et qui auront des pertes de chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez, vous avez raison. Il n'y a pas que des facteurs internes, mais ne pas avoir un budget, c'est appuyer sur la tête alors qu'on est déjà sous l'eau.
Autre sujet, Sophie Prima, le Sénat qui doit examiner aujourd'hui même, d'ailleurs, une proposition de loi pour lutter contre le narcotrafic. Le texte prévoit la création d'un parquet national contre la criminalité organisée et puis des mesures qui iraient du gel des comptes des narcotrafiquants à la création d'un statut de repenti, un peu comme ça s'est fait en Italie pour la mafia.
Ouais.
Le trafic de drogue. Ça a donné des résultats, ouais. En effet. Le trafic de drogue a pris des proportions tout à fait affolantes en France. Un certain nombre de spécialistes, par exemple l'ancien procureur de Paris, François Bollins, dit que c'est aujourd'hui quelque chose de peut-être encore plus préoccupant que le terrorisme en France, c'est dire le niveau d'inquiétude. Est-ce que vous croyez au fond aujourd'hui qu'il soit encore possible d'éradiquer le narcotrafic en France ou que ça va être mission quasi impossible et qu'on pourra le réduire, mais pas le supprimer?
Alors, nous voulons faire avec le narcotrafic, la lutte contre le narcotrafic, la même chose que ce que nous avons fait pour le terrorisme. Moi, je me souviens très bien au moment de l'explosion du terrorisme, on a dit « Ah ben, c'est trop tard, on n'y arrivera pas », etc. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'un acte de terrorisme, mais il y a quand même des structures qui ont été mises en place qui nous permettent de lutter contre le terrorisme et de réduire le risque.
Mais le maillage des réseaux terroristes en France sur le territoire français n'a jamais été comparable à ce qu'est aujourd'hui le maillage du narcotrafic.
Là où vous avez raison, c'est que les Français sont très préoccupés, le ressentent profondément, parce que ce narcotrafic, il gangrène non pas quelques cités, non pas quelques grandes villes.
Ça, c'était vrai il y a quelques années.
Mais maintenant, c'est dans les villes moyennes et c'est même dans la ruralité. Donc de ça, on m'a parlé, par exemple, dans la Creuse, de la réalité de ce danger. Et donc, il faut être extrêmement proactif. On a la chance, dans ce gouvernement, d'avoir à la fois un ministre de l'Intérieur et à la fois un garde des Sceaux extrêmement déterminé sur le sujet. Donc il y a des actions qui sont prises maintenant, notamment il y a les circulaires que vous avez mentionnées qui sont envoyées par le garde des Sceaux pour qu'on lutte contre le blanchiment de l'argent, qu'on vende les actifs des gens qui se sont enrichis trop rapidement, qui vraiment renforcent les dimensions, les mesures immédiates. Et puis il y a ce texte qui, je le signale, est une proposition de loi, c'est-à-dire que c'est un texte d'origine parlementaire et de deux parlementaires qui sont pas assis au même endroit sur l'hémicycle, un socialiste Jérôme Durin et puis les républicains Étienne Blanc, et qui ont beaucoup travaillé sur cette question de narcotrafic et qui aujourd'hui apportent des solutions qui sont des solutions législatives puissantes.
Est-ce que des dispositions plus dissuasives à l'égard des consommateurs ne seraient pas aussi un outil dans la lutte contre le narcotrafic ?
Écoutez, pour l'instant, on a fort à faire avec ceux qui sont déjà dans le narcotrafic et qui l'organisent et qui
Mais s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de...
Oui, en tout cas, ça
a fait chuter, forcément.
On peut regarder des deux côtés, mais je crois que vraiment, la priorité des priorités, c'est de s'attaquer aux grands banditisme. On s'y attaque aussi dans les prisons, où il est nécessaire de les isoler, de les éloigner de leur milieu d'origine, de leur géographie d'origine, et de vraiment s'assurer qu'ils ne peuvent pas commanditer des actions à partir des prisons.
On arrive au terme de l'émission. C'était hier le 80e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz. Une cinquantaine de survivants ont livré des témoignages et des messages poignants, bouleversants. Mais en France, l'antisémitisme connaît une progression terrible depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Au-delà des mots, comment faire pour que les Français juifs ne se sentent plus menacés, obligés parfois de dissimuler une kippa, de retirer la mezouza à l'entrée du logement? Comment faire pour qu'ils retrouvent une forme d'apaisement qu'ils ont peut-être en partie perdu depuis ce 7 octobre?
Permettez-moi de commencer en vous disant qu'en janvier 2017, j'ai accompagné le président de l'Archer à Jérusalem, dans le cimetière. Ouais. Je me suis recueillie devant la tombe d'Ilan Halimi. Sur cette tombe est inscrit « Ilan Halimi, torturé et assassiné en France parce qu'il était juif ». J'ai jamais eu honte comme ça. Je ne me suis jamais sentie aussi blessée, attaquée dans ce que la France représente que devant cette tombe. Donc je pense que c'est un combat de tous les jours. Alors les témoignages d'hier, il ne faut jamais les oublier, il ne faut pas que ça recommence. Mais nous avons aujourd'hui des actions qui sont, vous savez, Cora Roberger a annoncé, on allait relancer les assises de l'antisémitisme. Elisabeth Borne dans les écoles s'attache énormément à la fois à la protection des professeurs, mais aussi à apprendre aux jeunes ce que c'est que la Shoah. Donc nous sommes vraiment, et aussi dans un arsenal pénal important d'origine parlementaire.
Merci Sophie Prima d'être venue.